Ce matin, j'aimerais introduire mon propos par deux témoignages trouvés sur Internet. Le premier est le témoignage de Dia, 27 ans, et mère de 3 enfants, qui dit avoir toujours su que sa mère préférait sa sœur. Ça persiste encore aujourd'hui, écrit-elle. Ma mère a dépensé 6 700 € pour le mariage de ma sœur et a fait le travail d'organisation pour elle. Je me suis mariée récemment, elle a payé la moitié de ma robe et m'a finalement offert un cadeau plusieurs semaines plus tard. Elle ne s'est pas impliquée dans les préparatifs du mariage, elle n'a pas trouvé de temps pour moi du tout. Ma mère a déjà laissé tomber mes enfants plusieurs fois, annulant à la dernière minute leur anniversaire, raconte-t-elle. Mais maintenant, ma sœur est enceinte. J'attends juste de voir si son bébé reçoit plus d'attention que mes enfants. Si je vois des signes de favoritisme là aussi, la relation entre ma mère et moi sera terminée pour de bon. Je ne veux pas que mes enfants ressentent la douleur que j'ai ressentie. Le deuxième témoignage n'est pas nominatif, c'est celui d'une jeune fille de 18 ans qui partage sa souffrance sur le même sujet. Bonjour, j'ai 18 ans et j'ai une petite sœur de 15 ans. Mes parents montrent beaucoup de préférence à ma petite sœur et j'en souffre énormément. C'est vrai qu'elle est jolie, coquette, super gentille, calme, posée et surtout brillante à l'école, contrairement à moi. Moi, à côté, je me sens toujours le vilain petit canard. En plus, quand je me plains à mes parents de leur préférence, ils m'accusent d'être jalouse d'elle et me culpabilisent. Une fois, j'en ai même pleuré à chaudes larmes et personne n'est venu me réconforter, sous prétexte que je n'ai qu'à arrêter d'être jalouse, un point c'est tout. Le pire, c'est que ma sœur ne m'a rien fait, mais je commence vraiment à la détester. Merci de votre aide. Ce matin, vous l'avez compris, dans notre série sur Jacob, dont c'est le 9e volet, il sera question en particulier de favoritisme parental. Et oui, il y a parfois du favoritisme dans les familles. Il est souvent réel, il peut aussi parfois être imaginé, mais qu'il soit réel ou imaginé, qu'il existe objectivement ou seulement dans la tête de l'enfant, parfois aussi d'un parent, il produit toujours de la souffrance et des dysfonctionnements importants dans les relations familiales. Qui peut dire combien de vies de famille ont été profondément affectées, voire détruites, par du favoritisme parental? Du favoritisme dans la famille de Jacob, il y en a toujours eu. En fait, dans la famille de Jacob, personne n'a jamais été logé à la même enseigne. Souvenons-nous, dès son enfance, Jacob a baigné dans un climat où les préférences parentales étaient très marquées. Nous en avons parlé dans cette série. Rebecca préférait Jacob, Isaac préférait Ésaü. C'est le texte biblique qui le dit. Ces préférences parentales ont pesé lourd dans la balance de tout ce qui s'est passé par la suite et qui a abouti à la haine de Ésaü pour son frère Jacob, qui a dû fuir au loin pour échapper à la mort. Et puis il y a eu la préférence de Jacob pour Rachel, sa deuxième épouse, au détriment de Léa, sa sœur, qu'il a dû épouser en premier suite à la tromperie de son oncle Laban. Que de souffrance dans ce ménage à trois. Que de souffrance pour les trois. Que de souffrance en particulier pour Léa, la mal-aimée. Puis, pour faire face à la stérilité de Rachel, le ménage à trois est devenu un ménage à cinq, avec les deux servantes de Léa et Rachel, qui vont aussi donner des fils à Jacob. Était-il seulement possible dans cette situation inextricable qu'il y ait des traitements ou qu'il n'y ait pas de traitement différent ? Non, dans la famille de Jacob, personne n'était logé à la même enseigne. Ces préférences maritales vont bien évidemment se répercuter au niveau des enfants. Et c'est ainsi que Joseph, le fils aîné de Rachel, la bien-aimée de Jacob, qui va décéder en mettant en monde son deuxième fils, Benjamin. C'est ainsi que Joseph va devenir l'objet de toutes les attentions de son père. Joseph, le préféré de Jacob. Sans doute l'était-il déjà avant le décès de sa mère. Sans doute le deviendra-t-il encore plus après celui-ci. Depuis la dernière fois, nous avons vu Jacob se rendre à Bethel, où Dieu lui est à nouveau apparu, trois choses essentielles se sont passées. Premièrement, Rachel va mourir en mettant au monde Benjamin, son deuxième fils. Deuxièmement, Ruben, le fils aîné de Jacob et Léa, va tromper son père en couchant avec Bilha, la servante de Rachel, qui avait donné deux fils à Jacob, donc deux frères à Ruben. Troisièmement, Jacob va revenir auprès de son père Isaac, qui décédera quelques années plus tard. Et c'est ainsi que se termine, dans le livre de la Genèse, le cycle de Jacob, pour donner place au cycle de Joseph, après un chapitre consacré à Ésaü. Si notre série sur Jacob ne s'arrête pas à la fin du cycle de Jacob, c'est que Jacob, Israël, continue à apparaître dans le cycle de son fils Joseph. Et c'est pourquoi, même s'il n'occupe plus le devant de la scène, Jacob est toujours là. Et notre série continue encore un petit peu dans le cycle de Joseph. C'est donc au début du chapitre 37 que nous allons retrouver Jacob, Israël, ce matin. D'ailleurs, il est appelé Israël au tout début de ce chapitre, au verset 3, où il est dit ceci: « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. » Favoritisme parental dans la famille de Jacob, suite et fin. Nous passons à notre deuxième point intitulé « Du favoritisme à la haine », qui est aussi le titre du message de ce matin. Je vous invite maintenant à la lecture des 11 premiers versets du chapitre 37 qui sont donc projetés à l'écran. Jacob habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en immigré. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit : « Écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs à lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se redressa se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Vas-tu donc être roi sur nous ? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage, à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua. Il lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Tout ce que nous avons dit au sujet des nombreux favoritismes qui ont jalonné la vie de Jacob fait clairement le lit, le terreau du récit que nous venons de lire. Ainsi, après ce regard dans le rétroviseur, finalement, nous ne sommes pas surpris de lire le favoritisme de Jacob pour Joseph. Pas surpris aussi de voir la jalousie, la haine qui se sont développées parmi les autres fils de Jacob. Oui, Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est ce que précise le verset 3. Pourquoi ? Le texte continue, parce que Joseph était un fils de sa vieillesse. Nous pourrions aussi ajouter ici, pour éclaircir le propos, parce que c'était le premier fils, le premier-né de Rachel, son épouse bien-aimée, qui avait été longtemps stérile. Et c'est la raison pour laquelle Joseph était un fils de sa vieillesse. Que Jacob ait eu une affection particulière pour Jacob peut aisément se comprendre. Ce qui est moins compréhensible et apparaît comme un manque de sagesse, c'est d'en avoir fait ouvertement l'étalage auprès du reste de la famille. En effet, Jacob ne semble avoir rien fait pour cacher sa préférence pour Joseph. Bien au contraire. Et c'est ainsi que nous lisons à la fin du verset 3 que Jacob fit faire une belle tunique à Joseph qui avait alors 17 ans. Et à l'évidence, cette tunique était particulière, elle était différente de celle de ses frères. C'était une tunique qui singularisait Joseph, qui marquait la différence et surtout qui marquait la préférence de Jacob pour lui. L'adjectif utilisé en hébreu pour décrire cette tunique a suscité beaucoup de traductions diverses. C'est ainsi qu'on a parlé de tunique bigarrée, de tunique princière, de fine laine, à pans multicolores, de plusieurs pièces, amples et longues, à manches longues, etc. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas vraiment comment le traduire. Et donc, au vu de toutes ces possibilités de traduction, il serait bien hasardeux d'essayer de trancher. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce vêtement, quelle qu'ait été son apparence, marquait le favoritisme de Jacob pour Joseph. D'ailleurs, c'est à ce stade dans le récit, après que Jacob ait donné cette tunique à Joseph, que nous lisons que les frères de Joseph se mirent à le détester. Pourquoi ? Verset 4, « Parce qu'ils virent que leur père l'aimait plus que tous. » Par le don de cette tunique, ils virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils auraient pu se mettre à détester leur père. Ils l'ont peut-être fait. Mais c'est toujours plus facile de s'en prendre aux plus petits, aux plus faibles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Combien nous, parents et grands-parents, devons veiller à ne rien faire qui suscite de tels sentiments chez nos enfants ou nos petits-enfants. Et s'ils existent, à tort ou à raison, nous devons veiller à prendre le temps du dialogue, le temps du dialogue pour désamorcer cette bombe à retardement qu'est la jalousie au sein d'une famille. Il semblerait que Jacob ne l'ait pas fait ou qu'il n'y soit pas parvenu. On peut facilement deviner les relations tendues et hostiles qui devaient exister entre Joseph et ses frères. Ses frères, dit le texte, qui ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Et c'est dans ce climat détestable que la vie familiale a continué. A continué jusqu'à ce qu'une dernière goutte vienne faire déborder le vase. Et je veux parler ici, bien sûr, des rêves de Joseph. Nous les avons lus, je ne vais pas les commenter dans le détail. Ce sont des rêves qui, à l'évidence, vont se concrétiser plus tard, quand Joseph sera en Égypte, quand il dominera l'Égypte et quand il dominera les siens. Des rêves que Joseph aurait certainement dû garder pour lui, bien que Dieu, dans sa souveraineté, s'en soit servi pour accomplir son plan. Des rêves, quoi qu'il en soit, qui vont attiser la haine de ses frères, puisque dans ces deux rêves, il est dit qu'ils se prosternent devant lui. Alors je relis juste les réactions des frères de Joseph. Verset 5, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Verset 8, ses frères lui dirent, « Vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 10 et 11, il le raconta à ses pères, à son père et à ses frères. Son père le rabroie et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les rêves de Joseph sont clairement la goutte qui va faire déborder le vase. La mèche, écrit un commentateur biblique, la mèche a presque atteint le tonneau explosif. Il se passe sans doute un certain temps entre ces deux rêves et l'épisode qui va suivre, quand Jacob envoie Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères qui sont partis au loin pour faire paître le troupeau familial. Ils se sont rendus près de Sichem, dit le texte. Certains pensent ici que Rachel est peut-être encore vivante à ce moment-là, dans les versets 2 à 11, puisqu'il y est fait allusion à la mère de Joseph. Oui, à la mère de Joseph, au verset 10. Notons qu'il est possible que ces versets soient à mettre chronologiquement avant le décès de Rachel au chapitre 35. Possible, mais pas indispensable à la compréhension de notre texte. Quoi qu'il en soit, on est surpris de lire que Jacob envoie Joseph s'enquérir du bien-être de ses frères. Était-il aveugle à ce point, au point de n'avoir rien vu venir, rien compris de ce qui se passait dans sa famille sous ses yeux? N'avait-il pas vu et compris la haine de ses autres fils pour Joseph? Mais qu'avait-il donc compris? Quel manque de lucidité, en tout cas c'est ce qu'il nous semble, quel manque de sagesse. Quelle passivité! Et c'est ainsi que Jacob envoie Joseph à l'abattoir. C'est comme ça que Joseph part en direction de Sichem. Sichem qui se trouve à environ 80 kilomètres au nord de là où il se trouve. Sichem, souvenez-vous, où les frères de Joseph avaient commis un massacre après le viol de leur sœur Dina. Et on doit se demander ici, mais que sont-ils allés faire là-bas? Pourquoi sont-ils retournés à Sichem, aussi loin? Seulement, voilà, quand Joseph arrive là-bas, ils ne sont plus à Sichem. Et il apprend qu'ils sont un peu plus au nord, à Dothan, une vingtaine de kilomètres un peu plus au nord. Et c'est ainsi que Joseph se retrouve bien loin de chez lui, bien loin de la protection de son père. Avant de poursuivre le récit, j'aimerais juste souligner une chose concernant Joseph, à savoir son obéissance. Si son père était aveugle quant à la haine de ses fils pour Joseph, Joseph, lui, ne pouvait pas l'ignorer. Il lui parlait mal. Ils avaient déjà dû lui rendre la vie bien difficile. Et il fallait à Joseph un véritable esprit de soumission pour obéir à son père et aller à la rencontre de ses frères. Joseph, qui par bien des aspects préfigure magnifiquement le Seigneur Jésus dans son obéissance. Quand ses frères voient Jacob de loin, arriver au loin, toute la frustration accumulée pendant des années remonte à la surface et ils se mettent à comploter contre Joseph pour le faire mourir. L'occasion est trop belle. Versets 18 à 20, ils le virent de loin, et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Que disent les frères de Joseph en le voyant arriver? Ils disent « Voilà le maître rêveur !» Le maître rêveur qui arrive. On peut aussi traduire « Voilà l'expert en songe qui arrive. » C'est plutôt ironique comme commentaire. À l'évidence, les rêves de Joseph leur sont restés coincés là, quelque part, au fond de la gorge. Et il est temps pour eux de laver cet affront dans le sang. Et disent-ils alors à la fin du verset 20, « Nous verrons bien ce qu'il adviendra de ces rêves. » C'est ici que Ruben va intervenir pour sauver Joseph et convaincre ses frères de le laisser en vie et de se contenter, pour l'instant, de le jeter vivant dans une citerne à proximité. Ruben montre ici du bon sens et de la sagesse qui lui ont fait cruellement défaut quand il a couché avec la concubine de son père. Mais il est le fils aîné de Jacob, et pour l'heure, ses frères lui obéissent. Quelle est la première chose que les frères de Joseph ont fait quand ils l'ont attrapé? Je lis les versets 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Il est significatif que la première chose faite par les frères de Joseph quand ils l'attrapent, c'est de le dépouiller de la fameuse tunique, symbole de toutes leurs blessures, symbole du favoritisme de leur père, symbole de la haine qu'ils vouent à leur frère. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve dépouillé de sa tunique au fond d'une citerne, certainement une tunique creusée pour récolter l'eau de pluie. Et alors que Joseph est au fond de la citerne, le texte nous dit que ses frères passent à table. Leur conscience est anesthésiée depuis bien longtemps. Si peu de détails nous sont donnés au chapitre 37 quant à la capture de Joseph, il y en a un petit peu plus loin dans le livre de la Genèse qui est significatif, qui se trouve dans le récit quand les frères de Jacob iront en Égypte lors de la famine qui va arriver et leur conscience est en train de les travailler. Voilà ce qui est écrit au chapitre 42, verset 21. Ils s'exécutèrent tout en se disant l'un à l'autre, « Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. » Et nous pouvons facilement imaginer que leur repas ce jour-là s'est fait non pas dans le silence, mais avec le fond sonore des supplications, des appels au secours de Joseph du fond de sa citerne, qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils ont volontairement ignoré. Et alors que Ruben s'éloigne pour une raison qui n'est pas précisée dans le texte, peut-être en avait-il assez d'entendre Joseph, les cris de Joseph. Les autres frères voient passer une caravane de marchands en direction de l'Égypte et Judas convainc ses frères de leur vendre Joseph. Une façon de se débarrasser de lui sans attenter à sa vie. Et c'est ainsi que Joseph est vendu pour 20 pièces d'argent, c'est-à-dire à peu près le prix d'un esclave. Et quand Ruben revient un peu plus tard, il est trop tard. En tant qu'aîné, Ruben se sent responsable. Que va-t-il donc pouvoir dire à son père ? Oh, une tromperie fera l'affaire. On n'en est plus à une près dans la famille de Jacob. C'est vraiment une spécialité familiale. Donc il décide de prendre la fameuse tunique et de la tremper dans le sang d'un bouc pour faire croire à leur père que Joseph a été agressé et tué par une bête féroce. Et c'est ainsi qu'ils vont tromper leur vieux père. Et nous lisons au chapitre 37, versets 32 à 35, « Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie, pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Il regarda et dit, « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler. » Mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Ainsi son père le pleura. Chers amis, quel triste tableau. D'un côté, Jacob, qui avait lui aussi en son temps trompé son vieux père, maintenant abusé par ses fils, et que rien ni personne ne peut consoler. Et puis de l'autre, ses fils, responsables du chagrin de leur père, et qui essayent malgré tout de le consoler, peut-être pour obtenir enfin un peu de son amour en retour. C'est tragique, c'est triste, c'est pathétique. C'est la famille dysfonctionnelle de Jacob, qui, bien que Dieu l'ait choisi, doit maintenant assumer les conséquences de certains de ses choix, de sa passivité, de sa préférence pour Joseph. Que retenir de ce récit ? J'aimerais brièvement souligner trois choses, faire trois prolongements à ce que nous venons de dire. Et la première chose que j'aimerais souligner concerne la passivité de Jacob. La passivité, vous savez, c'est cette attitude qui consiste à ne pas agir quand nous devrions le faire. Elle est souvent sur le moment la solution de facilité. Mais en fait, elle ne fait que repousser le problème jusqu'au jour où la bombe à retardement finit par exploser. Clairement, il y a eu chez Jacob par moments de la passivité. De la passivité quand son oncle Laban a profité de lui pendant une quinzaine d'années. De la passivité quand ses fils Siméon et Lévi ont vengé leur sœur Dina et qu'il n'a rien dit. De la passivité quand Ruben a ouvertement couché avec son épouse. Là encore, il n'a rien dit. De la passivité quand sans doute ses fils se sont mis à haïr Joseph, quand ils ont cessé de lui parler. Bien sûr, il faut du courage, il faut de la sagesse pour régler les problèmes au fur et à mesure, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, mais qu'il faut choisir le moment opportun pour le faire, pour dire ou faire ce qui doit être dit ou fait. Chers amis, dans notre vie de tous les jours, quelle que soit la situation qui demande que nous agissions, peut-être une situation que nous repoussons depuis des mois, Dieu veut nous aider à y faire face. C'est vrai dans toutes nos relations, dans toutes nos situations. Nous pouvons lui demander sa sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, comme le dit Jacques dans son épître. Et c'est vrai en particulier dans nos relations, au travail, à l'école, à l'église aussi, bien évidemment, à la maison, les enfants avec les parents et les parents avec les enfants. Dans ces domaines et dans bien d'autres encore, nous sommes souvent notre pire ennemi par nos passivités, par nos procrastinations, par nos manques de courage. Nous sommes nos pires ennemis. Tout cela est bien souvent alimenté, voire aggravé, par d'autres choses que nous faisons ou que nous tolérons, comme dans notre texte, ce favoritisme de Jacob pour Joseph, qui à l'évidence rendait très difficile, voire impossible, ce qu'il aurait pu dire à ses autres fils. Puisse le Seigneur nous aider chacun à relever ce défi avec son aide, de faire ce qui est juste au moment opportun, même si c'est difficile. La deuxième chose que je voudrais souligner concerne certains des sentiments que nous avons évoqués dans ce texte, à savoir la jalousie et la haine. Chers amis, nous ne devrions jamais ignorer ces choses quand elles sont en nous, parce qu'elles ne sont jamais anodines, jamais. Chers amis, si elles sont en nous, nous ne devrions jamais penser qu'elles vont partir par elles-mêmes, parce que ça n'arrivera pas. Au contraire, sans action de notre part, ces choses finissent par grandir en nous, jusqu'au jour où nous ne pouvons plus les maîtriser, jusqu'au moment où elles nous font faire des choses que nous allons regretter. Si le message s'intitule « Du favoritisme à la haine », pour les frères de Joseph, il faudrait dire « De la colère au désir de meurtre », en passant par la jalousie et la haine. C'est ça le cheminement qui les a amenés à ce qu'ils ont fait ou voulu faire. Oui, sans action de notre part, ces choses, la jalousie et la haine, finissent toujours par grandir en nous, jusqu'à ce que nous fassions la sortie de route que nous regrettons ensuite. Si de tels sentiments sont dans notre cœur ce matin, quelle qu'en soit la raison, peut-être devons-nous commencer par demander pardon à Dieu, et puis lui demander de nous aider à faire le ménage dans notre cœur, dans notre vie. Chers amis, si vous êtes confrontés à ça, ne le remettez pas au lendemain. Dans sa grâce, Dieu veut vous aider à le faire aujourd'hui. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur, jusqu'à ce que personne, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations, et que plusieurs n'en soient souillés. » Oui, l'amertume dans notre cœur, mais on pourrait le remplacer par la colère, la jalousie, le ressentiment. Toutes ces choses produisent des rejetons. C'est ce qu'il est dit ici dans le texte pour l'amertume. Des rejetons jusqu'à la haine qui affecte notre vie et qui affecte la vie des autres. J'ai personnellement déjà expérimenté ces rejetons dans ma vie. Et sans doute que vous aussi. Mais j'ai aussi expérimenté le pardon et le secours de Dieu qui se trouve toujours dans la détresse. Dieu qui seul peut changer nos cœurs. Alors puisse le Seigneur nous aider chacun à relever ce défi avec son aide, bien évidemment, et à faire le ménage dans notre cœur, dans notre vie, à arracher ces mauvaises herbes de notre cœur, ces racines d'amertume, ces racines de jalousie, ces racines de haine peut-être. J'aimerais terminer ces prolongements avec une troisième et dernière chose qui concerne les conséquences de nos actes. Parfois, nous pouvons penser à tort, je l'ai déjà entendu à de nombreuses reprises, que la grâce de Dieu dans notre vie, qui a pour conséquence notre salut, qui a pour conséquence notre réconciliation avec Dieu, notre réconciliation les uns avec les autres, le pardon que Dieu nous accorde, que la grâce de Dieu a aussi pour effet de nous épargner les mauvaises conséquences de nos actes. Vous l'avez déjà entendu, ça ? Le penser peut nous amener à douter de Dieu et de sa bonté. Quand nous finissons par constater que ce n'est pas le cas. Chers amis, il peut arriver parfois que Dieu, dans sa grâce, nous épargne telle conséquence de quelque chose que nous avons fait. Mais la réalité, c'est qu'être son enfant, qu'obtenir son pardon, ne nous dispense pas des conséquences parfois difficiles de nos actes. Bien sûr, avec le Seigneur, nous les vivrons autrement, nous pourrons les vivre autrement, mais nous devrons y faire face. Jacob a été choisi par Dieu. Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a fait des promesses incroyables. Mais quand Jacob a manqué de sagesse, par le favoritisme de Joseph, par sa passivité, il a dû assumer les conséquences tragiques de ses actes, de ses choix, de la colère, de la jalousie, de la haine qu'il avait suscitée chez ses autres fils. Bien sûr, je le redis, avec le Seigneur, nous vivrons les conséquences de nos actes autrement. Mais nous devrons les vivre quand même, car Dieu ne les fera pas disparaître systématiquement, tout simplement parce que nous sommes son enfant. Que nous soyons en Christ ou pas, nous sommes soumis comme tous les humains à ce principe que nos actes bons ou mauvais ont des conséquences. Attention donc à ne pas attendre de Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. même si parfois, je le redis, dans sa grâce, il se plaît à aplanir notre sentier. Puisse le Seigneur nous venir en aide à chacun pour que nous puissions toujours faire face de la bonne manière, aux conséquences de nos actes, quels qu'ils soient, et continuer à marcher de progrès en progrès avec le Seigneur. Ce sera pour sa gloire et ce sera pour notre bien. Amen.